Merci John, Gaëlle Emery, Kesaki, à l'Université Occitano d'Estiu. Est-ce qu'alcune de son pays qui y cresquette et qui des mailles y est plan actif ou dans quel pays perché lo conoscen elenco per lo conosce son paese per un aspetto geografico ma stabe naturale e culturale e fa 12 anni venga nous parla della riserva de Camargue perché è una zona donc umida fragile de preserva e venga in sa qualità de direttore della riserva. Ma e a queste certa be lo podres descubrir dins un autre rôle del costat artistique de son travail, l'écriture, la composition et l'interprétation, perché cantara l'album titulat Imbalance en duo amb Emmanuel Aimes. Donc sera un spectacle de pas manca à Nouros, à qui à l'Ostalio César. Donc Masper Lour nous présente son pays per lo prisme dels Nundelio, perché fage pareisse en 2014 l'ouvrage Les noms de lieux en Camargue, toponymie de Ségur. Donc continuant des cavalo pays et es invendo a qui tu podres trapa et donc per descubrir lo pays a qui a queste école us Nundelio. Merci Gaël.
Merci. Bonjour, bonjour à tous. Je suis content de venir parler de la toponymie, qui est un sujet qui est un peu rare. C'est pas une science exacte, mais c'est un médium pour parler du pays. Pour créer que le pays est mort, il y a toujours un peu de pays dans la toponymie, dans les noms des lieux. Donc je vais vous donner l'exemple de la Camargue, qui connaît un peu, pour vous parler des noms des lieux. Et pour vous dire que c'est bien important de parler des toponymies et même qui sont dans nos pays depuis longtemps, mais aussi même celles qui sont dans nos pays, qui viennent d'arriver dans un pays, parce que c'est pour raconter le pays, c'est pour raconter l'histoire des hommes à travers de la toponymie. Pour commencer, quelques citations en français. Être de quelque part, c'est être de certains lieux. Ici, chaque tamaris a un nom, alors qu'il semble que personne n'y passe. Cette citation est importante parce que dans la façon de nommer les lieux, on raconte déjà un petit peu le territoire. Ce qu'on constate, c'est que plus un territoire est difficile d'accès, plus il est difficile à maîtriser, plus on va avoir une toponymie riche. Comme si l'homme se servait des noms de lieux pour s'approprier un territoire qui lui échappe. Donc, en Camargue, c'est pour ça qu'on dit que chaque tamaris a un nom, alors qu'on a l'impression qu'il n'y a personne. Une autre belle citation de Jean de Flandrésie, qui dit « Je ne connais pas de pays dont les noms de lieux sont plus évocateurs que ceux de la Camargue. Ils ont, dans le silence des plaines infinies, une noblesse légèrement triste, une sonorité large et recueillie. » Il y en a también une autre qui dit que va au profond, profond va au. C'est un peu l'histoire de la toponymie, quand la connaissez. Donc en Camargue, derrière un toponyme, on trouve souvent l'histoire d'un homme qui a eu affaire avec la nature. Per travailler sur la toponymie, c'est faux. On a dans les archives también. Est une science qui est un peu au médium de l'histoire, de la géographie et de la linguistique. La toponymie vient du grec topos et onoma, qui veut dire donc le nom, les noms de lieux, pour en déterminer la formation et l'évolution. Et donc ce n'est pas une science exacte. C'est pour ça qu'elle n'est peut-être pas trop travaillée par les disciplines, parce qu'évidemment, chacun peut avoir une version sur l'origine de tel ou tel nom de lieu. Vous allez voir que c'est parfois truculent. Alors comment on fait pour retrouver attribuer une origine à un nom de lieu? Mais il faut retrouver la forme la plus ancienne et ensuite suivre son cheminement, son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et suivre ce qu'on appelle en toponymie les dénaturations, c'est-à-dire la façon dont un nom de lieu peut être déformé par les hommes, par la tradition orale, par ce qu'on appelle l'appropriation. On étudie aussi les cartulaires, les cartes. Je vais vous montrer beaucoup de cartes de la Camargue et d'autres régions. Certaines archives des commanderies sont très très riches, les commanderies dans le pays d'Arles. Les délibérations, les arrendements, c'est-à-dire les locations de terres. Et donc on croise ça avec des données qui concernent le Rhône, les embouchures, la navigation, les ordres religieux et aussi certaines activités qui sont vraiment structurantes comme le sel. L'activité du sel qui a sa toponymie propre, on va le voir. En étudiant les tracés, les cordons littoraux, les rapports des tours de défense, parce qu'on faisait beaucoup de rapports, les militaires faisaient beaucoup de rapports pour dire, voilà, il s'est passé ça, il y a eu tel échouage, il y a eu tel navigateur mis en quarantaine, et ça permettait aussi de découvrir les noms de lieux autour de ces rapports de tours de défense. On consulte aussi les fonds de synthèse, c'est-à-dire les études agronomiques, les fonds notariés, les notes d'érudits, etc. Et évidemment, moi, ce qui m'a le plus passionné, c'est recueillir la tradition orale, c'est-à-dire s'entretenir avec les gardiens, les pescaire, les cassaire, per les escuta, par là, les noms des lieux. Et c'était souvent le plus, évidemment, le plus passionnant, mais aussi le plus rigolo. Et aussi peut-être ce qui génère le plus de mystère, hein. Parce que peut-être ce qui est passionnant dans la toponymie, c'est qu'in fine, quand on a étudié les archives, qu'on a écouté ceux qui sont encore vivants, qui peuvent raconter le nom de lieu, en fait il y a toujours un mystère sur pourquoi on a baptisé tel ou tel nom de lieu. Alors il y a 12 médiam per classifia les toponymes. On peut utiliser les couches linguistiques, c'est-à-dire il y a des formes pré-latines qu'on va retrouver dans certains secteurs. Donc ça va être les formes qui sont évidemment relativement anciennes, puis les formes latines, très fréquentes dans nos régions, évidemment, et les formes provençales ou occitanes qui sont plus récentes. On peut aussi utiliser l'origine supposée du toponyme, c'est-à-dire, alors là vous avez trois sous-discipline à la toponymie. Vous avez l'oronymie, c'est la toponymie liée au relief, aux hauteurs. Il y en a beaucoup parce qu'il y avait besoin de... Quand on vivait dans un endroit, on avait besoin de dire ben là, c'est une punche, esaco es une baisse, de marquer les points hauts, les points bas. L'hydronymie, donc évidemment très riche en Camargue, c'est la toponymie qui est liée à tout l'isaigue. L'isaigue qui passe, ou l'isaigue qui est sous à l'assa, l'iclar, l'ipalune, tout à coup l'ouvririn après. Et l'onomastique, que moi je n'ai pas traité, c'est-à-dire c'est la toponymie qui est liée au nom propre. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de toponymes qui sont liés à des noms de famille, à des noms propres. Et pour la Camargue, je rajouterai d'autres spécificités. La phytonymie, c'est-à-dire la toponymie qui est liée à la végétation, très riche. La toponymie liée au tracé du Rhône et au naufrage, aux pratiques et aux usages des hommes, et la toponymie du sel, qui est très particulière et qui est intéressante parce qu'elle, on le verra dans des exemples, elle montre aussi comment les hommes se sont déplacés, comment ils sont allés travailler dans le sel, à la sueur de leur front, en souffrant d'ophtalmie, et donc ils ont laissé aussi la marque de leur souffrance dans le dinasao, dinaïe salade. Alors là, vous avez deux cartes de la Camargue où on voit tous les différents tracés du Rhône. En gros, la Camargue a 6000 ans, et de 6000 ans à 1850, on dit que c'est la terre de l'homme rare. C'est-à-dire que les hommes ne s'installent pas, il y a quelques abbayes qui traînent par-ci par-là, mais souvent la vie est intenable. Les moignes, même les moines cisterciens d'Ulmé, ne sont restés qu'une vingtaine d'années, parce qu'ils avaient tout le temps les pieds dans l'eau, il y avait des moustiques, c'était un pays compliqué. Et donc, parce que les Rhônes changeaient de cours. Donc tout ce que vous voyez là sur cette carte, en fait, ce sont des tracés du Rhône. Il y avait une crue, le Rhône changeait de cours, et puis les habitants se déplaçaient. Et le Rhône, en laissant un passage, ben, il laissait des points hauts, des points bas, qui vont être marqués par la toponymie. Donc quand on étudie les tracés du Rhône, déjà on a plein d'indications sur la toponymie. Là, vous avez la même chose du côté des Seine-Marie de la Mer et d'Aigues Mortes, avec le Graou de la Cabre, le Gros de la Chèvre ici. Et tous les différents Rhônes, le Rhône de Pécaille, le Rhône des Touradons, vers Vauvert, etc. Et on va retrouver les Touradons, Pécaille, sous un quart à des toponymies d'Aujourd'hui. L'Ougraou de la Cabre, c'est même une dénaturation, l'Ouverain tout tard. L'Ougraou de la Fourcade, bon, par le tout saoulé. Ça, ce sont les différents cordon dunaire dans le secteur d'Aigues-Mortes. Donc vous avez vu que en fait, la Terre avançait sur la mer progressivement. Donc là, vous avez un cordon dunaire à 7000 ans. Il y a 7000 ans, 1 à 6000 ans, à 4000 ans, et puis l'actuel à moins 2000 ans. Et donc chaque cordon a laissé des traces qu'on retrouve dans la toponymie. Finalement, la toponymie, c'est ce que me disait un géomorphologue, c'est parfois aussi efficace pour comprendre les divagations des rônes. Et donc quand la Terre avançait sur la mer, les cordons qui restaient à l'arrière finissaient par se boiser. C'est pour ça que dans le secteur ici, là, par exemple, le cordon le plus ancien, vous avez un hameau qui s'appelle Silvéréal, hein, qui veut dire la forêt royale, et qui indique donc cet aspect-là. Donc on peut aussi lire la végétation. Ça, c'est une autre carte. Alors, elle est complexe. C'est une carte de Véran, qui est un érudit arlésien, et qui, lui, a marqué tous les tracés du Rhône, tous les lieux-dits. Et ça, ça m'a beaucoup aidé, parce que, par exemple, j'ai retrouvé là des formes anciennes. J'ai vu, par exemple, que le Fangassier, l'estandu Fangassier, esmuntes li becaru sun installa, proche di Salin de Gerau, le Fangassier, il est déjà ici, chez Véran, et il est déjà là en 1600 ans. Ça veut dire que ça fait un moment que c'est le Fangas. Donc c'est le Fangas, quoi. Donc un Fangas, c'est un point bas, peut-être une ancienne embouchure. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut faire le lien entre des toponymes et les tracés du Rhône. Bon, on va passer vite sur d'autres. Ça, c'est une carte d'Augusta de la Pichotte Camargue. C'est también une grande Camargue, mais d'Augusta d'Ugar. Il y a también le toponymie Pécaille, l'estand de la ville, proche d'Aigues-Mortes. L'ouré paussé, qui vont dire une endrée où les bateaux sont arrestés. Alors, en commençant, on en verra les toponymes qui sont liés à la géomorphologie du Ribeirès, donc la géomorphologie littorale. Et chaque fois, je vous donnerai quelques exemples de la façon dont les toponymes, à partir d'une forme, soit prélatine, latine ou occitane, peuvent se déformer. Si vous prenez aujourd'hui une carte de l'IGN au 25e, vous allez voir dans cet intersecteur des noms de lieux qui sont écrits Foux, F-O-U-X. Et plus vous allez remonter dans les cartes, plus vous allez trouver Fous ou Afouz avec un Z ou Afous avec un S. Donc la Fous, c'est dénaturé en Foux. Donc aujourd'hui, moi j'en ai vu encore écrit encore plus mal avec des L ou des lettres qui apparaissent, on ne sait pas trop pourquoi. Dans les cartes de l'IGN, j'ai trouvé beaucoup beaucoup d'erreurs sur les toponymes. Je vous en donnerai un exemple rigolo tout à l'heure sur le Clos d'Esclos. Et donc là vous avez, bon, il y a un étang qui s'appelle l'étang du Lion, il y a la Fosse du Lion. Donc ça c'est un creusement, un endroit aussi où l'eau peut surgir à Fosse. Et donc aujourd'hui c'est écrit Foux. Le Gros, bon, plus connu, qu'on peut retrouver dans d'autres formes anciennes, le Gras. Donc il y a también le Grau de la Dengue, le Grau d'Orgon, près de Sainte Marie de la Mar. Et vous avez aussi sur les autres toponymes littoraux ce qu'on appelle tous les dépôts. Alors une qui est force qu'une aiguë est ce qu'est devenu l'Oura. L'Oura, c'est un mot probablement très ancien, pré-latin, qui veut dire émergence. Et c'est le premier nom qu'on a donné aux Saintes Marie de la Mer, puisque l'Oppidum Ra était déjà mentionné comme un lieu où était probablement situé géographiquement là où sont les Saintes Marie de la Mer. Et ça va devenir Sancta Maria de Ratis au VIe siècle, puis Santi Maria de la Mar aujourd'hui. Mais le toponyme est resté, puisqu'on va le retrouver Ra, Rasiège, Rado en français, ou le bois d'Ariège, pour ceux qui connaissent un peu la Camargue, le bois d'Ariège vient de cette racine-là, d'un rat qui s'est dénaturé en Rasiège ou Ré-Riège au Moyen-Âge et qui est devenu l'Ariège aujourd'hui. Et là, c'est intéressant parce que le bois d'Ariège, il y a deux hypothèses. Soit c'est le Riège, donc qui est le radeau, puisque ce sont vraiment des terres qui sont basses, qui émergent à peine de l'eau, soit ce sont des radeaux où la végétation est dominée par l'Ariège, qui est la salse pareille en français. Et donc vous allez retrouver plein de radeaux, alors tout le sud de la Camargue est plein de radeaux, et on a cette origine-là. Les tignes aussi, qu'on retrouve au Moyen-Âge, ça veut dire en fait noyau, comme quelque chose d'où on part pour construire, hein, donc une espèce de, voilà, le noyau, hein, donc la base, Et on va retrouver ça aujourd'hui beaucoup sur les cartes, les thés. Les thés de Roustan, les thés de Périclès, en fait, ce sont des avancées sableuses qui faisaient que la terre avançait sur la mer. Et on les retrouve beaucoup, encore aujourd'hui, les thés, dans les cartes toponymiques. Ensuite, vous avez l'Ipalun, Tuti l'Ipalun, qui est sous un cas aujourd'hui force utilisée par l'Ikasai, surtout l'Ikasai, et aussi un peu les naturalistes. Alors, vous avez le palun, la palunette, qui est la Lupicio palun, la grande palun, ou la, alors, par des fesses, il y a la grande palunette, Skumako. Il y a aussi les clars, Ezako est une clar, donc c'est le clair où les sarcelles vont venir se poser pour le chasseur qui est calé par ici, là, hein, qui est à la cale, ici dans les rousets ou là dans la roselière. Et soit ce clair il est naturel, soit il a été aménagé par l'homme pour que les canards s'y posent. Donc le clair, vous allez souvent entendre, certains chasseurs disent encore le clar, hein, à que vespre, va au micala, dit le clar. Dis-nous clair d'une endrée. Et surtout, la baisse a découvert une cinquantaine de baisses en Camargue. Et des baisses, toutes les baisses qui bossent. Donc le point bas, qui est en eau. La particularité de la baisse, c'est un point d'eau qui ne reste pas longtemps en eau. Voilà, qui reste quelques semaines et quelques mois. Tant la toponymie est importante pour dire qu'il y a des dangers. Donc, pour marquer des passages, vous avez tous ces toponymes là qui sont d'origine de la langue d'oc, la fangouze, le fangassier. Donc, c'est très clair. On sait ce qui va se passer quand on va traverser. Là, vous avez une photo de Bouzanqué du début du XXe siècle dans le secteur du Pré des Demoiselles à Vauvert, où il dit qu'un cavalier traverse une fangassier. Vous voyez bien que le fangassier, le cheval s'enfonce. Et donc, là, le toponyme, il sert à marquer un danger, à informer ceux qui travaillent ou qui passent dans ces secteurs. Le Neg Bio, à quoi est-ce clair también, est un lieu d'une approche du bosse d'Uriège. Il y a un passage et tous les autres passages sont extrêmement risqués. Alors souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient un piquet ou quelques cailloux pour dire « Dis le Neg Bio, fa ou passa à qui ?» Si on passait ailleurs, on se plantait. Le Taute, au Sainte-Marie de la Mer, c'est l'endroit où on s'enfonce, enfin, c'est ce que dit la tradition orale. Les Laurons, bon, plus connus en Croix, ou les Fontanilles, qui sont un peu l'équivalent des Laurons dans côté Camargue-Gardoise. Hein. Donc, les Laurons, les Fontanilles, c'est des émergences de la nappe qui font qu'on a carrément des secteurs où on peut disparaître totalement à cheval. Donc c'est même très dangereux, les Laurons. Certains les connaissent bien, ceux qui ne les connaissent pas peuvent être vite... Il y a des chevaux qui se sont perdus dans les Laurons et dans les Fontanilles. Là, vous avez la gaze de la Bérésina. Alors c'est rigolo, ça c'est sur le Grand Radeau. Je crois que c'est la famille Reynaud qui a baptisé ce secteur-là, parce qu'une fois, ils ont envoyé le troupeau de vaches qui a paniqué. Il y a des bêtes qui se sont quasiment noyées. Et donc depuis, ils ont appelé ça la gaze de la Bérésina. Bon. Et c'est une manière entre eux, alors ça c'est des micro-toponymes, on verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs échelles de toponymes, ça c'est une manière entre eux de dire, bon, il faut faire attention, sinon c'est la bérésine. Alors l'oronymie, ça c'est aussi très, très important, parce que pour quelqu'un qui étudie la Camargue, la nature, mais ça peut s'appliquer à tous les territoires en fait, ça va vous permettre aussi de comprendre l'utilisation des lieux par les hommes. Donc comme disait Darbo, l'Uma, Sarabastis, l'Autur, Adjermide. Et donc, il dit que effectivement, on met le mas sur le point haut, comme ça, on est à l'écart des inondations. Donc voilà tous les toponymes qu'on peut retrouver pour marquer les points hauts. La Montille, l'Esquinao, donc ça fait comme c'est un point haut en longueur qui fait penser à une échine. Esquinao, l'Esquinao de la Tour du Valat, par exemple, il y a une Esquinao también de Custa des Salines de Girao, la Houture. La Tourade et le Touradon. Touradon, c'est des points hauts aussi qui se forment autour de la végétation. También c'est pas aussi le terrasson chez les gardiens notamment. Et très souvent aussi le mouré. Le mouré est une punche qui s'avance d'un instant ou d'une palue. Il y a une moulon des mourés. Les points bas, donc la Baïse, là ils disent tout à l'heure, il y en a 50 dans l'île de Camargue. Le souterrain, et souterrain, souterrain, souterrain du Custa de San Gil, les Crèze. Et une toponyme que moi j'aime bien, la Gatille. La Gatille est une toponyme qui est très utilisée par les chasseurs. En fait, c'est un endroit où il y a juste un petit peu d'eau. Juste quelques heures, quelques jours après une pluie. Et où, qui attire notamment les sarcelles. C'est pour ça que les chasseurs, ils aiment avoir la Gatille. Alors, tous ces toponymes de la géomorphologie, là, pour prendre la suite, souvent, les cartes nous confirment. Là, vous avez une carte du bras de fer au XVIe siècle. Donc, c'était là où passait le Rhône. Et le Rhône, il avait un cours parfois imprévisible. Il n'était pas endigué. Donc, vous voyez qu'il remonte sur lui-même pour redescendre et faire un méandre incroyable. Et là, il crée une pointe. Et donc, là, vous avez la Grand Punch. Et aujourd'hui, est-ce toujours la Grand Punch de Coussa, des Saint-Bertrand, proche de la Tour du Valat, des Salines de Girao. Il y a un restaurant, il y a une manade de la Grand Punch. Aco avait le radeau des Redounières. Est-ce le radeau Redoun? À la Desparterre Redoun, et avec l'érosion, où il est pris une autre forme. Mais si on regarde sur les cartes anciennes, il est bien quasiment rond. Est devenu, alors aujourd'hui, les Camarguais disent Redeyer. Voilà. Donc, ça, c'est une dénatération. C'est-à-dire que c'était le radeau Redoun, puis le radeau des Redounières, et aujourd'hui, c'est Redeyer. Là, vous avez un autre exemple sur la tour du Valat. Vous voyez cette espèce de petit marais là. Quand on le regarde comme ça, on dit à quoi il fait penser? Une petite bonbonne. Et ils ont appelé ça la bomborinette. Donc, aujourd'hui, si vous prenez une carte de l'IGN au 25 millième, vous regardez le secteur, vous verrez la bomborinette, et au-dessus, l'estan Redoun. Qu'est-ce force Kunegu, l'Endré ou la Besse d'Ovacares à Rencontra, Jaume Rebao, oui, Jaume Rebao pour la perle à la débute du roman de José Darbao. Lui, on voit bien qu'il est bien, qu'il est quasiment rond. Hein. Donc les toponymes, ils servent aussi en fonction de. Alors c'est souvent les cartographes qui ont baptisé, parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient voir les lieux avec un autre regard, parce que quand on est au sol ici, évidemment, on ne voit pas que c'est une forme de bonbonne. También avec les spiguettes du Custa du Grau de Urey, qui est une punch qui s'avance à qui d'Inamar. C'est un autre toponyme de géomorphologie. Avec le Recula, le reculé ici, c'est notre punch. Vous voyez ici, c'est le petit Rhône qui arrive à son embouchure au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et donc, il revient sur lui, le recula, le reculé, puis il repart et crée cette espèce de pointe qu'on a vu tout à l'heure s'appeler le reculé. Ici, c'est le petit Rhône au niveau d'Albaron. Et vous voyez qu'il fait un tracé particulier puisqu'il part vers l'ouest et puis il revient comme ça. Et ce coin là est appelé depuis très très longtemps, puisque le premier toponyme que j'ai vu, c'est 15e siècle, Aorissé. Donc comme si ça avait une forme d'oreille. C'est une des hypothèses. Aujourd'hui, vous le trouverez sous le nom de l'Aorissé. C'est une propriété qui existe toujours, mais c'est bien une aorille. Donc un autre toponyme de géomorphologie. Donc là, vous voyez qu'avec un toponyme, on peut comprendre comment s'est formé un territoire et le raconter. Alors vous avez dans les toponymes un truc que moi j'aime bien, qui est très rigolo, c'est ce qu'on appelle les souquets. Quand j'ai commencé à regarder les toponymes en Camargue, j'étais surpris parce que je trouvais des noms de lieux, notamment sur les îles, qui me surprenaient. Il y avait l'île des Perdreaux, l'île des Lapins, l'île du Pèbre, l'île de la Quarantaine, je ne pourrais plus vous dire, mais il y en avait, on va la voir tout à l'heure la liste, mais parfois des dénominations qui me paraissaient saugrenues. Et l'explication vient de ce qu'on appelait les souquets. En fait, les souquets, c'était une manière de payer en nature les consuls d'Arles pour avoir accès à un territoire. Donc quand vous vouliez avoir accès à une île, parce qu'une île c'était très riche, évidemment, c'était fertile. Donc quand vous voulez s'installer sur l'île, on allait voir les consuls, on disait, bon voilà, moi j'aimerais bien m'installer sur cette île, cultiver, que dois-je payer? Et les consuls disaient, bah, il nous faut nous porter 12 lapins par an. Et donc ça devenait le nom de l'île. Et donc c'est ce que dit cette délibération de 1661 qui dit, les îles avaient des dénominations fantaisistes, dont l'origine rappelait le nom des mets que les visiteurs, désignés par le conseil, portaient dans leurs visites annuelles et qu'ils appliquaient à l'île nouvellement formée. Donc tous les ans, ils arrivaient avec leur lapin, avec leur perdreau, et c'est comme ça qu'ils payaient les consuls. Alors pourquoi ce système? Parce qu'en fait, comme le Rhône n'était pas endigué, en fait, ces îles, elles duraient quelques décennies, puis elles changeaient. Donc ça permettait d'avoir un système très souple et les noms évoluaient. Et aujourd'hui, en Camargue, vous avez beaucoup de noms de lieux qui sont liés à ces îles. Vous avez le Mas du Pèbre, et on avait l'île du Pèbre, puisqu'il fallait payer en poivre. Donc là, vous avez toutes les listes. Donc vous avez l'île des Perdrix. Donc tous les ans, il fallait que les locataires portent 4 paires de perdrix, 4 douzaines de grives et 4 livres de riz. L'île des saucisses. Alors on peut imaginer que les consuls, ils en profitaient pour avoir des mets diversifiés, parce que vous voyez qu'à chaque île, ils ne faisaient pas doublon. Hein, 12 livres de saucisses, l'île des levrots et des perdreaux, l'île du veau. Bon. Aujourd'hui, vous avez l'oumas du Védéo, à Saline de Girao, ça vient de ça, c'était une ancienne île. L'île des bécasses et des muges, donc ils avaient pensé aussi aux poissons, 60 livres de muges salées, bon. L'île des anchois et des tourterelles. Alors ce qui est rigolo, c'est que des fois, ils demandent des mets qui n'ont rien à voir avec le territoire. Donc je ne sais pas comment les gars allaient chercher tout ça. L'île des chevreaux, des agneaux, l'île des poulets, des chapons, des galines et des pourceaux, des porcelets. L'île des jambons et des dindes. Les herbages, bon, des fois, ils n'avaient pas d'appellation. Et ils devaient payer là, par exemple, au Peloux, donc l'Oupelous, donc une terre un peu particulière, qu'on retrouve dans les Spéloufides, 6 livres de sucre fin. Voilà. Et l'île des pinces, l'île des tripes, où là, ils devaient. Alors là, ils avaient des choses à porter. Hein. Donc, 4 grands cabas de pinces, 60 livres de figues de Marseille et 16 livres de pignons. Bon. Donc, eux, ils avaient du boulot. Hein. Peut-être que c'était une île qui était particulièrement riche. Vous voyez, alors ça, c'est intéressant parce que souvent, on me dit mais pourquoi il y a un mas du Pèbre? Bon. Ben, voilà. On peut retrouver l'explication et raconter quelque chose aux gens qui ne connaissent pas les territoires. Je passe vite, il y en a d'autres, il y a les oies, les saucissons, les canards, la muscade, le pèbre, la quarantaine. Alors, la quarantaine, c'est une autre explication, c'est qu'elle était située vraiment au bord du littoral, et dès qu'il y avait un naufrage, on mettait les navigateurs quelque temps sur cette île. Et elle était quand même cultivée. Alors là, vous voyez qu'eux, ils avaient beaucoup, beaucoup à... Il fallait qu'ils mènent du thon, des pougaou languilles, de la cannelle, 30 gerbes de sol rebattin, donc une variété de sol, 12 langues de bœuf, 40 livres de fromage d'Auvergne. Voilà. L'île de quarantaine, elle était... Voilà. Après, vous avez les courins. Les courins, c'est le nom des anguilles argentées, parce que vous avez des différentes anguilles. Voilà, donc ça, c'est les souquets. C'est assez rigolo. Et donc là, vous avez sur cette carte, on envoie... Là, vous avez acquis l'île du Pèbre. Acquis, Questambin, dignitaire. Hein, c'est, l'île a disparu au XVIIe siècle, à peu près. Je ne sais pas si on en voit d'autres, là. Tambin ou Pelous, qui la même vis. Faraman est une autre toponyme, et Paoulé aussi. Ensuite, vous avez tous les tours de dispositifs de surveillance. Donc là, c'est toutes les tours qu'il y avait au Moyen-Âge en Camargue. Donc l'idée, c'était pour les Arlésiens de contrôler la piraterie qui remontait par le fleuve, mais aussi de contrôler le commerce. Et donc, on a des tours... qui sont disposées. Alors, la plupart aujourd'hui sont visibles parce qu'elles ont été avalées par les bâtiments. Donc, la tour de Vazel, tour du Valat, vous voyez encore les tours. Les deux dernières qui sont, qu'on peut voir et qui n'ont pas été récupérées par des bâtiments, c'est la tour vieille, à qui Tambin, Cédis, Loutampan, mais c'est la tour vieille, que c'est pas au Monta, dit la tour vieille, et la tour de Port-Saint-Louis, qu'on peut visiter. Toutes les autres, elles sont dans les masses. Il y avait la Médiane, ici la tour Médiane, qui est le domaine de Médiane aujourd'hui. Pourquoi la Médiane? Parce qu'elle se situe à mi-chemin entre Arles et les Saintes-Maries de la Mer. Alors une autre histoire passionnante autour des noms de lieux, qui est liée au poste de douane et notamment au faussonnage. Donc pour contrôler le sel, le roi avait mis énormément de moyens parce qu'il voulait que le sel, ça lui rapporte évidemment des impôts, donc on a commencé très très tôt à être tatillon sur les impôts, et donc il avait créé une espèce de police qu'il appelait les gabelous, et qui avait donc une, le roi leur avait donné une puissance exceptionnelle, puisque donc une ordonnance de 1680 disait qu'il ne sera fait aucune poursuite à ceux qui auront tué des faussonniers, imposant ainsi le silence à tous nos procureurs. C'est-à-dire que le gabelou était un policier qui pouvait tuer un faussonnier sans jugement. Et donc ça, c'est le roi qui avait donné ce pouvoir aux faux-sonniers pour contrôler la contrebande du sel. Parce que chaque fois qu'il y avait du faux-sonnage, c'était de l'impôt qui lui échappait. Et donc, vous avez beaucoup de toponymes qu'on retrouve en lien avec cette histoire. Donc, il y a beaucoup de postes de douane, le chemin des douanes, l'ancien poste de douane, proche de l'Estang des Baudus, la dune de Charles, qui était le prénom du responsable des douanes dans ce secteur au XVIIIe siècle. Et là, vous avez le poste de douane de la Vignole qui est Estabasti, je crois que c'est Louis XIV. Et aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien. Les Camarguais disent qu'il y a plus de naufrages en Camargue qu'au triangle de Bermude, pour gonfler un peu le torse. C'est pas faux, mais c'est pas parce que c'était un territoire avec des ovnis ou autres délires. C'était parce qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, le Rhône divaguait beaucoup, donc c'était un territoire dangereux avec des hauts fonds, donc il y avait beaucoup de bateaux qui pensaient arriver à Marseille et s'échouer dans ce secteur-là. Donc il y a aussi beaucoup de toponymes qui sont liés au naufrage. Et Ilouze, qui a travaillé là-dessus, a recensé 381 naufrages entre Aigues-Mortes et Fos-sur-Mer au droit des embouchures. Donc là, vous avez tous les toponymes qu'on peut trouver en lien avec les naufrages. L'étang du vaisseau, l'étang de la galère, l'étang des batailloles. La batailloles, c'est une pièce en bois qui sert de soutènement à un pont ou à une hune. Donc un vestige qui est resté sur cette plage et on l'a baptisé les batailloles. Le génois, bon, ça c'est aussi une voile. Le thé de la Tartane, le thé de Périclès, tout ça c'était des noms de bateaux. Le thé de Roustan aussi, c'était un capitaine, le capitaine Roustan qui s'est échoué avec son bateau à cet endroit-là. Donc voilà, autour des naufrages aussi pas mal de toponymes. Ici vous avez une photo de Karl Naudo, début du XXe siècle, avec ce qui reste d'une épave. Pour Percuntunia, la toponymie qu'est ligade à la SAO, donc l'activité salicole, elle est antique pour Aigues-Mortes, elle est plus récente pour Salins de Giraud. Et en plus de façonner les territoires, puisque les Saliniers aménageaient beaucoup les territoires, eh bien, ils ont aussi baptisé les lieux. Parce que pour se servir de tous ces petits bassins, faire circuler l'eau, il fallait pouvoir les nommer. Donc les sauniers... Moi, j'ai interviewé des sauniers, c'était passionnant parce que eux, c'est peut-être ceux qui avaient le plus de toponymes, c'est-à-dire qu'il y avait des bouts de digues, des tronçons de digues qu'ils avaient baptisés. Parce que ça avait une fonction pour l'exploitation. Donc là, vous avez un zoom sur une carte du Salin de Giraud qui est de début du XXe siècle, où on voit, ça c'est un secteur qui doit faire à peu près 1000 hectares, où on voit tous les noms qui sont donnés à ce qu'ils appelaient les jeux. Les jeux, c'était en fait des séries de tables, d'étangs aménagés qui servaient à faire fonctionner le salin. Donc le jeu de la machine, le jeu, voilà. Donc une toponymie très riche et qui est toujours utilisée aujourd'hui, ça, par les sauniers, même si ça s'est mécanisé. Là, vous avez la même chose sur le secteur d'Aigues-Mortes, un peu moins aménagé, mais on voit ici les partenements là, qui sont fermés, avec chacun à son petit nom. Donc voilà quelques toponymes que vous pouvez trouver. Donc l'aiguillon ou aiguillon, parfois ils disent Aigues-Mortes aiguillon, l'aiguillon plutôt à Saint-Giraud, ils le disent en français, les caillerelles, les jeux, donc je vous l'ai dit, les cuvettes, la cuvette c'est le point le plus bas où on garde l'eau toute l'année, les clos, donc c'est les différents étangs de partainement, les réservoirs, les machines, les séries, donc vraiment des toponymes très spécifiques, les machines en fait ce sont les pompes, et les séries ce sont des jeux de table qui ont une fonction. Donc il y a la série des crottes, il y a la série de l'esquinao, il y a plein de séries comme ça. Donc très intéressante cette toponymie. Et elle est aussi intéressante parce qu'on y retrouve parfois la trace des hommes dans leur déplacement. Donc vous avez par exemple le canal des Émargois dans le Salin de Giraud, parce que c'est de la main d'œuvre qu'on avait fait venir de ce secteur-là pour creuser ce canal. La digue des Toscans, pareil, près de Bauduc, parce qu'on sait que les Toscans, les Piémontais, ont été utilisés au début du XXe siècle pour creuser toutes les robines ou construire certaines digues. Et c'est pour ça qu'on les surnommait de façon très péjorative les babis, parce qu'ils avaient les pieds tout le temps dans l'eau. Donc on passait des tels et babis, ils font encore une digue. Voilà. Et le Tonkin, c'est un nom de lieu qu'on retrouve parce que c'était des poudreries où il y avait de main-d'œuvre asiatique. Donc le toponyme peut aussi nous raconter ces aspects-là. Aquí aves un bartas de taradeu. Donc ça, c'est la toponymie liée à la végétation. Le bartas, donc, ça va être un bosquet, très utilisé encore aujourd'hui par les gardiens. Avis, il y a une vaque, ou il y a también un bio d'inu bartas. Et le taradeu, c'est le nom du filaire, qui est cet arbre-là que vous voyez, cet arbrisseau. Aquí, tous les toponymes qui sont ligés à la végétation, les abes, les aubes, donc le peuplier blanc, aube, le canavérier, donc les cannes, ça c'est du côté d'Aiguemorte, le daladel, donc ça c'est une dénaturation de lui. Donc le taradeu est devenu daladel. Les anganettes, bon ça va, loup de gerbu, les ourtès, les jonquières, donc dominées par les joncs, les mauvinettes, les moutouses. Alors les moutouses, on en a partout, hein, c'est là où vous avez des végétations un peu moutonnantes comme les sansuires, etc. Silvéréal, on vous l'a dit, le tamarguiron, tamariron, tamaris, autambin, c'est un bosquet de tamaris, tout simplement. Plus ou moins. La trouzelle, ça c'est plutôt lié à la touzelle qui est un ancêtre du blé. Et la vernède, je ne vous dis pas de bêtises, la verne c'est l'aulne. Voilà. Donc tous ces toponymes, là, quasiment tous, vous les retrouvez aujourd'hui dans les secteurs. Et souvent, c'est intéressant parce que quand quelqu'un achète une propriété, instinctivement, il va se dire, mais pourquoi ça s'appelle la Vernède ? Donc, c'est pour ça que je vous dis que la toponymie, c'est intéressant pour parler du pays, parce que quand quelqu'un arrive dans un territoire, on peut lui raconter le pays, une partie du pays en tout cas, soyons modestes, par la toponymie. Pour continuer, quelques exemples de dénaturation. Comment un toponyme qui a une origine très claire peut être dénaturée. Et aujourd'hui, vous allez peut-être passer au hameau du Sambuc si vous allez en Camargue. En fait, Sambuc, aujourd'hui, si vous demandez à un Sambucain d'où ça vient Sambuc, il va vous dire ben, c'est la Sambuc, le Sambuc, c'est le Sureau. Hein? Alors, il y avait plusieurs versions parce que la Sambuc, también, c'est un endroit dangereux. C'est vrai que c'est un secteur qui a toujours été un peu un carrefour, donc on pourrait dire aussi qu'il y a ça. Et quand on cherche, en fait, on se rend compte que ce territoire-là était propriété du seigneur Bouic au Moyen-Âge, et on voit en étudiant les cartes et les écrits que le seigneur Bouic est devenu le Saint-Bouille, le Samboul et le Sambuc. Et donc du coup vous retrouvez qu'un toponyme qui a une origine et qu'on peut retrouver, mais pour les Camarguais, pour les Sambucains, c'est le Sureau, c'est ce qu'on appelle une appropriation, c'est-à-dire que l'origine est récupérée à une autre fin, et on a oublié en fait la vraie origine. Pareil, l'oupériol, impériol, l'impérial, ça c'est le nom de l'impérial. Et en fait, ça vient d'un nom propre, le périol. Forment, loin de la main. Ce qui était loin de la main, donc c'était un territoire qui était vraiment difficile d'accès. On va évoluer vers Faramas, et puis aujourd'hui Faraman, le phare de Faraman. Que vous connaissez aussi peut-être l'Estel, l'île Stel et l'Istel. Donc ça, des dénaturations, il y en a plein. Le radeau, j'en ai parlé. Donc vous allez retrouver plein de radeaux. Bon, ça a donné Ratis, Radel, Ré, Raziège, Ré-Riège et puis Riège. Là, vous avez la Ré longue du Grand Radeau. Alors, il y a une polémique sur la Ré. Vous voyez écrire comme ça parfois sur les cartes. Et puis, si vous allez au Grand Radeau, on vous parlera bien de la Ré longue. Il semblerait que la Ré ne vienne pas du radeau, mais plutôt d'une autre origine qui veut dire un flux inversé. C'est-à-dire l'eau qui remonte dans les terres, mais j'ai pas pu vérifier ça. Donc là vous avez là d'autres radeaux, le radeau de l'Aube au sud du troisième bois d'Ariège. Alors aujourd'hui quand on va au sud du bois d'Ariège, il n'y a que du sel, ça veut dire que par le passé il y avait suffisamment d'eau douce pour qu'un peuplier blanc puisse pousser, puisque l'Aube c'est le peuplier blanc. Donc vous voyez qu'un toponyme aussi ça peut vous donner une explication sur la façon dont a évolué le territoire, donc probablement plus doux, plus boisé il y a quelques siècles. Le Redouillère, on en a parlé tout à l'heure, le Grand Radeau et le Radeau du Loup, qui est un radeau sur lequel on a tué un des derniers loups de Camargue. L'été, j'en ai parlé. Et pour terminer, je voulais vous montrer en fait ce que peut être la micro-toponymie. C'est-à-dire que là, on a parlé de toponymes qu'on peut voir sur une carte de l'IGN au 25e. Mais si vous allez interviewer un propriétaire ou un gardien ou quelqu'un ou un locataire hein, qui utilise une terre, et lui, il va avoir des toponymes pour sa propriété. Donc, c'est ce travail que j'ai fait sur quelques propriétés de Camargue. Là, c'est le Mas de la Cure, qui est une ancienne propriété viticole. Et donc, j'ai interviewé le gardien qui avait passé sa vie là, et je lui ai demandé de mettre sur une carte les toponymes. Et donc, lui, il me met là les 16 000, les 6 000, les 16 000, les 22 000. Ça, c'était le nombre de pieds de vigne qu'il y avait dans les parcelles. Et donc, on était vraiment en lien avec l'activité agricole. La gare, donc c'est l'endroit où arrivaient donc les wagons pour charger le raisin. Et au milieu de tout ça, ben, vous aviez la nature qui restait, la tamaricière, le chemin du Bouvier, le bois du Sorbier. Voilà. Donc, les deux, comme ça, étaient mélangés. La cantine, parce que c'était à proximité de là où déjeunaient tous les ouvriers. Et le marais de la cantine qui était à côté. Donc vous voyez que là, quand on descend, quand on zoome, on se retrouve avec une micro-toponymie qui raconte l'histoire d'un site. Les Longuettes, vous avez souvent ce toponyme, alors vous le retrouvez aussi ailleurs dans les Cévennes, c'est les prés qui sont en long. Ça, c'est assez facile à capter. Là, vous avez la micro-toponymie du Grand Radeau. Alors ça, c'était intéressant. Vous avez le radeau du Seti. Le Seti, c'est le petit siège sur lequel se mettent les chasseurs. A priori, celui-là est resté longtemps, pour ça que le radeau du 7. Le radeau de la Vanelle, les mouettes, les vanneaux, les sept pins, la pointe des congelés, ça c'est rigolo, parce qu'il racontait qu'une fois il faisait tellement froid que quand ils sont allés récupérer les actionnaires de chasse, ils avaient quand même changé de couleur. Et donc ils ont appelé la pointe des congelés. La baisse de Jacqueline, alors ça c'est une histoire que je ne vous raconterai pas, mais vous pouvez l'imaginer, et le reculé qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous voyez que sur une micro-toponymie, où est présente une manade de chevaux et de taureaux, ben vous allez voir cette toponymie qui va illustrer cette activité. Donc vous avez le clos des taureaux, le clos des cocardiers, là je ne l'ai pas mis. Voilà pour le Grand Radeau. Oui, ça vient de rat. La rat, c'est une émergence en fait. Et je ne sais pas si c'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Donc ça, c'est la micro-toponymie du domaine de Canaverrier, qui est plus simple, qui m'avait été écrite par Marcel Reynaud. Donc là, on voit en fait les... alors, il y a ce toponyme assez mystérieux, les figues. On trouve beaucoup de figues, y compris dans des secteurs où il n'y a pas de figuiers. Par exemple, à quelques centaines de mètres de Bauduc, au milieu du sel et du sable, vous avez le gros des figues. Il n'y a jamais eu de figuiers. Là, vous avez les bonnes figues. Et donc, ça, je n'ai pas trouvé l'explication de l'origine de ce toponyme. Ce qu'on sait chez les saliniers, par exemple, c'est que lorsque le récolteur qui ramasse le sel s'enfonce, au lieu de ramasser le gâteau de sel, il va arracher de l'argile. Et ces argiles se roulent comme ça, ça fait des mottes et ça fait des figues. Et quand un ouvrier conduisait mal le récolteur, on lui disait « Oh là là, il a encore fait plein de figues ». Ça, c'est la seule... explication qu'on pourrait trouver, mais là on est loin de zones salicoles. Donc vous avez ces fils, ces figues partout, les rigoles. Alors dès que vous passez côté gare, vous avez moins la roubine. La roubine est surtout dans la partie île de Camargue, un petit peu en Croix aussi. Puis quand vous arrivez dans le gare, vous avez la rigole. Les rampes, alors ça c'est les vestiges aussi de l'activité viticole. La tourade, alors la tourade là c'est pareil, vous n'allez pas avoir de tourade côté île de Camargue, vous les avez plutôt côté gare, côté voir un petit peu l'Hérault, les touradons, et là vous avez la tourade longue. Voilà. Les clairs, la tourade c'est un touradon, c'est un petit point haut en fait, hein, c'est un peu un synonyme de terrasson, terrasson. Et les clairs, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, c'est les marais qui sont aménagés ou qui sont naturellement ouverts et qui font les clairs, monter ces pohuana kasa. Voilà un petit peu un aperçu de ce travail sur la toponymie. Et effectivement, je pense que ça peut être un bon moyen à développer pour parler du pays quand le pays s'est un petit peu perdu. Voilà, parce qu'on peut raconter des choses passionnantes, on peut raconter l'histoire des hommes et on peut faire passer aussi des émotions avec les noms de lieux. Voilà, donc je vous invite peut-être tous à votre niveau à regarder cette question, peut-être peut-être qu'on n'utilise pas suffisamment pour parler du pays. Voilà, on parle du pays. Alors voilà, il y a les livres aussi. Il y en a d'autres étant bien hein, sur la toponymie. Hein. Bon. Et il faut faire le troisième côté croc, ça sera pour la retraite. Grand merci, Père Vostescout. Si t'as main, il y a des questions.
Oui. Alors, nous a présenté une tire des tours, tout à ras. My project, bon. Et des lignes, il y a une qui s'est passée à l'IS, qui m'a regardé de ça, pour ce que vous voulez dire. Par exemple, la tour de la Brauda, je ne me souviens pas, Brauda. Alors, Brau, est une bio?
Brau est une Dao.
Oui, mais le féminin, Brauda. J'espère à quoi que s'y est passé ça.
On retrouve la tour du Brau. On voit dans les vieilles cartes la tour du Brau, et c'était une île où il devait payer aussi. Hein. Donc le Brau, c'est une bio. C'est
ouais.
Une
Dao.
Mais votre question, c'est perqué la Braude.
Oui.
Vous ne le savez pas.
Et ni maillot. Bon.
On ne peut pas toujours tout savoir en toponymie. Hein.
C'est pas en Camargue, mais on m'avait dit que vers Rex, il y a le pas des lanciers qui tiennent la lance, et que ça venait du pas des lanciers, de l'anxiété, de la peur, parce que ce passage était dangereux. Donc je ne suis pas sûre de me rappeler bien. Et aussi, la dérivation qui a été faite des Aupilles, du sommet des Aupilles, qui est devenue les Aupies, parce que le géographe était de Paris ou d'ailleurs, et qu'il avait noté Aupio, et c'est devenu Aupies. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur ça?
Alors, ça, sur les deux exemples, moi c'est vrai que ce n'est pas des secteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, mais ça ressemble effectivement à des dénaturations. Je vais vous donner un exemple de dénaturation que j'ai vu, qui montre qu'en fait on peut en avoir beaucoup. Quand vous prenez une carte de l'IGN aujourd'hui, sur le secteur de Bauduc, vous avez un endroit qui s'appelle le Clos des Clos. Donc en français, c'est écrit C-L-O-S, et plus loin, D-E-S-C-L-A-U-T. Et quand j'ai interviewé René Lambert, qui était un gardien, je lui ai dit, mais est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le Clos des Clos? Il me dit, mais il ne faut pas l'écrire comme ça, c'est parce qu'avant, c'était tellement loin qu'on pouvait y aller qu'à Côte des Clos. On ne pouvait y aller qu'à cheval. Donc vous voyez que là, quelque chose qui était à Côte des Clos, est devenu le Clos des Clos, c'est-à-dire on lui a donné, en fait, c'est devenu un anthroponyme, c'était lié à un nom propre qui n'existe pas. Donc là, vous pouvez vous chercher pendant des, des décennies d'où vient ce des Clos, en fait non, c'est Côte des Clos. Donc là, vous voyez que la tradition orale a été mal collectée, et vous retrouvez qu'un toponyme qui n'a plus aucun sens, et que personne ne pourra retrouver. Hein. Donc les Aupies, les Aupies, c'est possible que ce soit ça. Par contre, sur Aix, je n'ai pas l'information. Peut-être que monsieur...
Il a dit la réponse. Il a dit la réponse au père Loupa des Lanciers. C'est des Marseillais, c'est une déformation des Lancises. Lancises, qui est une coupe à durant.
D'accord.
Et par exemple, les Marseillais perdirent la camise, disent la camière.
Bon.
Les S. C'est Loupa des Lanciers, où ne t'essaie pas ça vers la route, vers des quais qui tient des montagnes. Tout. Non. Vous comprenez ça? Ça y est, pas si c'est clair. Oui.
Merci. C'est un régal, hein, Franck Amin. Il pas capitaine de tout nous tâter la main qu'est Ric. C'est un travail qui est dégupréné des temps. Mais des mendicantes, et coussi à se finir de perdre campa tout Isaac, lisez les mains, à cause de ma première question. À une seconde remarque, est-ce que Bessarias, merci à des travaux comme Litioun, qui est Midjen, un pouscu, pensé à l'icône de mon papé, quand a écrit l'icône de la Marbelle, pour faire la transmission de cette histoire du pays à travers les noms des lieux. A inventé un conte qui s'est dit les 13 courriers des aigues mortes, où tu viens expliquer qu'aucun le temps du repos n'est pas au 7, est-ce que c'est ça? Il a inventé un fantasme des causes sur les noms des lieux pour leur donner des sens, et que Béléo, à qui on n'avait pas pu l'histoire d'Aussens premier, et ben avec l'Udrecht d'Inventa une culture vive, hein, comme par exemple les abîmes où t'es vidour les s'escampes d'ins la mar, à qui entre l'étang du Ponant, hein, donc entre le Grau et le Moutas. Que l'Umutas t'avait voulu dire et ce que veut dire. Enfin, donc, quand des temps après, et comment a fonctionné, quelle méthode y a utilisé, Gaël, pour ton travail, c'était plaï.
Pour faire le premier livre, et comment ça, je crois qu'il y a eu 5 ans entre la début et l'édition, 5 ans dans les archives, aussi pour écouter les gardiens, les pescaires, les cassaires. Tout à côté, hein, ben les naturalistes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les naturalistes, quand ils sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, ils ont aussi beaucoup baptisé les lieux. Et ils avaient des origines qui étaient très extérieures, hein, c'était souvent des Anglais. Et, donc, par exemple, sur la Tour du Valat, vous avez la mare de Piccadilly Circus. Hein. Et donc, on voyait que dès que quelqu'un arrivait de l'extérieur, même qu'il ne connaissait pas le territoire, il avait besoin de dire ben, « je suis un peu d'ici » en donnant un lieu. Un nom, un lieu. Piccadilly Circus, il y a aussi le trou de Trafalgar Square sur la Tour du Valat, qui est un peu la même origine. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour rencontrer tous ces gens. Je voulais les rencontrer aussi avant qu'ils disparaissent, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être quasiment plus personne qui peut raconter ça. Et donc, c'était probablement le plus passionnant, les archives, on peut continuer à le faire. Bon. En gros, 5 ans pour le premier, 3 ans pour le second. Et donc, la méthode, c'est, je vous l'ai dit, donc j'ai pris une carte IGN au 25 millième et j'ai noté tous les toponymes. Et j'ai pris chacun des toponymes et je suis allé chercher la forme la plus ancienne à chaque fois. Voilà. Donc, pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est souvent, on me dit, mais oh, il manque tel toponyme. C'est-à-dire que les toponymes pour lesquels je n'ai pas trouvé d'explication ou aucune piste, je ne les ai pas mis. Parce que je ne voulais pas... Voilà, dans un livre, on met pas un truc qu'on n'a rien à dire, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de toponymes pour lesquels on n'a pas d'explication. Et donc, ça me permet de rebondir sur la seconde question, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter avec les toponymes. On peut raconter plein d'histoires. Et il faut créer d'histoires, aimer les toponymes. Les abîmes, il y a celui du Gros du Roi, mais il y a aussi celui sur le bois des Rièges, il y a ce qu'on appelle la passe des abîmes. Et c'est là où on pense que la bête du Vacarès a disparu. Dans le roman de Darbo, à la fin, il parle d'une passe des abîmes où il a l'impression qu'il y a un petit bâton qui sort et que c'est peut-être elle. Donc, avec les noms de lieux, c'est vrai qu'il y aurait peut-être beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai fait une animation avec les enfants dans une école à Albaron et c'était très fructueux. Parce qu'eux, ils disaient, mais ma rue s'appelle comme ça. Alors, bah, les rues, ça peut être... C'est différent, mais vous allez vite avoir des rues qui... la rue des Cacalaos. Ah ben les cacalaos, c'est quoi? Et souvent, les petits parlent de loin, ils partent de loin. Et donc, ça peut être déjà des petites animations comme ça où on fait rentrer le pays, on fait rentrer la langue au travers de ces noms de lieux. Donc, c'est vraiment, je pense, une discipline qu'il faut creuser pour continuer à parler du pays qui se perd, voilà, quand il se perd.
Oui, une question. Yahweh, il nous stalle dans les hauts cantons de l'Hérault. Et le canton, ça s'appelle la Redounière. Et celui est espantat de veille, et qui, à un moment donné, est nommé la Redounière, à l'endroit où on se parle du Maréron.
C'est possible. Redoun est un toponyme qui s'est trouvé dans toute la langue d'eau. Redoun.
Alors, il n'y a que des gens qui ont une bartasse des saïpas, des roudous, ou roudous.
C'est possible, je ne savais pas.
Donc. Et à qui, per vous autres, est-ce à qui une lioque redoun ou bien un rapport à une végétation?
Alors, l'estang redoun est redoun. Le redoun, también, est une comment ils disent la plus grosse cloche des taureaux. Hein.
Ah, d'accord.
Et donc, parfois, il peut y avoir... Alors, je sais que dans une propriété, on m'a parlé du carrefour du Redon, et là, c'était lié à cette histoire, une histoire avec la cloche, la plus grosse cloche qui est portée par le Simbe ou le Duntaire. Mais moi, j'ai pas fait de, en tout cas sur la partie que je maîtrise, j'ai pas fait de lien entre le Redon et la végétation. Après, il peut y avoir d'autres particularités, et ça, peut-être ça vous fait un projet.
Merci, docteur.
La Crau.
Un carreau des trabales.
une montagne qui se sonne la montagne de la vieille morte. Et tout à cause d'une histoire d'une vieille qui carregeva une pierre sur son esquine, avec son fil, son as et son chi. Et il y a tout l'itinéraire de la vieille qui est marqué par ce malu, par son enfant, au corps de l'infâme, de fond mort. Depuis, son chi, d'une croise de chi. Et l'as d'un lieu qui se sonne négase. Il y avait une de Gardou, et l'asé se négait une l'ouri de Gardou. Et d'un pays mourait sur la montagne qui porte le nom des vieilles mortes. C'est toute une histoire.
Intéressant. Il y a un moulon des noms des lieux et mes mortes, et le mot. En Camargue, il y a femme morte, también la vieille morte. Montes, dini Seven, Montes?
Seven, à Monde Saint-Esteve de Val Francesco. Las baladas de Gardou.
Oh.
Par exemple, il y a Mantusio qui est sous l'homme mort, et qu'en fait, c'est l'ulme est morte.
Mala vieille, buono vieille, vieille morte, vieille.
Il y a force toponyme et le nom Uscla, le mal Uscla, il y a eu un incendie, voilà. Donc ça, c'est, on trouve aussi le Uscla un peu partout.
C'est dit, c'est bien que Camargue fuguait une terre d'accueil pour les caracs, les ziganes. Est-ce qu'il y a trace d'accord dans les noms des lieux ou fabriques, c'est ça, est-ce qu'il y a?
Non, j'ai pas trouvé de nom de lieu. C'est vrai que c'est étonnant, mais j'ai pas trouvé de nom de lieu. Il y en a beaucoup par rapport à l'immigration du travail.
Les Italiens, les causes
communes. Voilà, les Italiens, on en a parlé, les Gardois, les Lozériens, mais pas trop. Non, peut-être parce que peut-être que pour nommer un lieu, faut s'ancrer un certain temps. Une hypothèse.
Et rapport à au fait que les terres sont souvent propriétaires, là, s'il y a des consuls, s'il y a des clergues, la trace de la présence de la religion qui dédie à l'entourbelle de la badie de psalmodie et tout à coup, est-ce qu'il y a d'autres lieux où tu es?
Alors, surtout du Custad ou Gard, il y a une toponymie liée à la religion qui est beaucoup plus riche que dans la partie de Camargue des Bouches-du-Rhône. Et donc dans mon second livre, là, sur la toponymie du Gard, j'ai fait un chapitre que sur la toponymie liée à la religion, qui a beaucoup plus marqué les lieux. Ça, on me dit, c'est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Voilà. En Camargue, vous allez retrouver parce qu'en fait, les Templiers, notamment, faisaient des élevages de chevaux importants. Et donc, vous allez retrouver beaucoup de noms de lieux autour des chevaux en lien avec l'utilisation qu'en faisaient les commanderies. Mais c'est plutôt sur la partie gardoise, oui.
Et les Saintes Marie de la Mer, son arrivada qui, il y avait traces.
Alors c'est pas le premier nom, hein. C'est d'abord Ra, puis Ratis, oui. Et Sainte Marie de la Mer, ça vient plus tard pour structurer la légende, mais au départ, Sancta Maria de Ratis au 5e siècle, ça veut dire que c'est la Sainte Marie des radeaux. C'est la première fois que Sainte Marie apparaît. Avant c'est Ra ou Ratis. Ratis qui était aussi qui est devenu après voilà Radeau, Raziège, Riège, Riège.
Alors
non.
La NAS répondrait.
Est-ce d'autres causes?
Bah, c'est pour dire et très smooth Bella ou sur les spectacles des tout tard.
Vous Anne Encanta et Emmanuel Aimes, Kauki Kansun, qui sont de l'album Imbalance, des Kansun qui parlent de la Camargue también. Il y aura un passage sur Charlun Rieu, Kauki Kansun de Charlun, dont on fait entre guillemets le centenaire de la mort. Et voilà, donc on est en duo, des chansons. Moi je cherche à mettre en lumière et en évidence les textes. Donc il y a soit des textes que j'écris moi, soit des textes de poètes que j'ai mis en musique. Darbeau, Serge Beck, Charloun, Théodore Obanel. Voilà. Peut-être à tout à l'heure.